Il y a tout juste un an, les premiers Calédoniens se faisaient vacciner contre le Covid-19, vaccin au Pfizer-BioNTech. Actuellement, 65,05% de la population a un schéma vaccinal complet. Une fille de 19 ans porte plainte contre le président du gouvernement Louis Mapou et Rokua Miton, président du Congrès, pour mise en danger de la vie d'autrui. Selon son avocat, sa paralysie serait due aux injections Pfizer. Le soin que fonction publique était mobilisé devant le camp Est. Aujourd'hui, ils étaient une dizaine. Une action pour dénoncer les mauvaises conditions de travail au sein du centre pénitentiaire. C'est le 20 janvier 2021 qu'ont eu lieu les premières injections du vaccin Pfizer-BioNTech sur le territoire. Des premiers temps de faible affluence à la ruée des Calédoniens dans les vaccinodromes. Retour sur la progression de la campagne de vaccination contre le Covid-19 lancée il y a pile un an. Les précisions de Titouan Moile.
C'est le mercredi 20 janvier, il y a tout juste un an, qu'a débuté la campagne vaccinale locale. Des injections qui étaient alors réservées aux personnes considérées en première ligne, telles que les professionnels en contact direct avec les arrivants en Nouvelle-Calédonie ou encore les résidents et personnels des maisons de retraite. C'est finalement 15 jours plus tard que ceux âgés de 75 ans et plus ont été invités à se faire vacciner, suivis début mars des personnes présentant des comorbidités et des personnels soignants, puis des plus de 65 ans. Si l'arrivée du virus en provenance de Wallis et Futuna, en mars, suivie du confinement, va quelque peu accélérer le nombre d'injections, après 3 mois de campagne, 23 600 Calédoniens seulement sont vaccinés. Coup d'accélérateur le 11 mai 2021. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ouvre finalement la vaccination à toutes les personnes de plus de 16 ans dans le but d'immuniser le plus grand nombre d'habitants. Mais au début, les volontaires ne se bousculent pas devant les portes des centres de vaccination. Jusqu'au 6 septembre, date de confirmation officialisant la circulation du virus au sein de la population, suivie du deuxième confinement. Commence alors la course aux injections, avec d'importantes files d'attente devant les vaccinodromes qui fleurissent aux quatre coins du pays. Mais un an plus tard, on est finalement encore bien en dessous de l'objectif affiché des 90%, avec seulement 65% de la population totale qui a reçu ces deux doses. Car aujourd'hui, ce sont 48 000 Calédoniens qui refusent de se faire vacciner. Pour rappel, 282 personnes sont mortes du Covid depuis le 9 septembre dernier, date du premier décès.
Voilà, c'était Titouan Moile. Je le disais en titre, une jeune femme de 19 ans qui aurait ressenti des effets indésirables graves après avoir été vaccinée en fin d'année dernière a déposé plainte contre le président du gouvernement Louis Mapou et le président du Congrès Rokua Miton. Ils sont accusés de mise en danger de la vie d'autrui et de blessures involontaires. La jeune femme en état de grossesse a reçu des injections du Pfizer en septembre et en octobre dernier après avoir subi des pressions. Selon son avocat, elle n'avait pas d'antécédent médical. Elle est représentée par l'avocat Maître Samuel Bernard.
Suite à cette vaccination, elle a accouché normalement, mais elle a eu des effets indésirables extrêmement handicapants qui sont à la limite de l'hémiplégie. Donc moi, au vu de son jeune âge, au vu de son absence d'antécédents, je demande des comptes à ceux qui ont voté l'obligation vaccinale pour obtenir l'indemnisation éventuelle de son préjudice, mais aussi mettre en exergue le fait qu'on est dans un pays qui a voté une obligation vaccinale sans prévoir de système indemnitaire comme c'est le cas en France avec l'ONIAM. Donc il y a un problème, à mon sens, structurel, et tout ceci va permettre peut-être d'enclencher un débat qui n'existe pas à ce jour.
Quels sont les effets secondaires qu'elle a eus après ce vaccin ?
Concrètement, elle a toute une partie de son corps, de son visage, son bras, sa jambe, qu'elle a extrêmement de mal à se mouvoir. C'est pour ça que je vous dis qu'on n'est pas loin de l'hémiplégie. Elle a une paralysie faciale qui n'est pas à 100%, mais qui est extrêmement handicapante et disgracieuse, et elle a des difficultés maintenant pour marcher et même pour attraper les objets. C'est à mon sens, il faudra qu'il y ait une expertise médicale pour connaître l'éventuel lien de causalité entre ses séquelles et les vaccins qu'on lui a injectés et puis l'étendue de son préjudice.
Des propos recueillis par Marguerite Poigoun, l'ONIAM dont parlait Maître Bernard et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Le président du gouvernement et celui du Congrès réagiront lorsqu'ils auront pris connaissance du dépôt de plainte. La garde à vue du grand chef de Guama de Kuchas, Naislin, s'achèvera demain. Il sera déféré demain matin. Sa garde à vue aura duré 96 heures. Le grand chef du district de Guama ainsi que 5 autres personnes, la sixième n'ayant pas pu être interpellée car Covid positive, seront déférées dès demain matin devant le procureur de la République. Il avait été interpellé lundi après-midi à Tadine et mis en cause en tant que commanditaire des exactions commises à la tribu de Roamare courant novembre 2020. Et opération Île Morte à Marée aujourd'hui, c'est une action en soutien au grand chef du district de Guama, Henri de Coutasse. Naislin, qui entame son troisième jour de garde à vue. La BCI, l'OPT, la mairie et d'autres services étaient fermés toute la journée à la demande du grand chef du district de Tadine, Waike Djewene. Le bureau de l'air Négoné est lui fermé jusqu'à vendredi. Au chapitre social, sous-effectif des agents de tous les services, surpopulation carcérale, crise sanitaire, le contexte est tendu au centre pénitentiaire de Nouville. Le soin que Fonction publique a voulu le faire savoir aujourd'hui. Le syndicat organisait un mouvement devant l'établissement sans entraver le fonctionnement normal de la prison. Anne-Claire Lévesque.
Pour les membres du soin que Fonction publique, le mal-être des agents est profond. La cause principale, explique le syndicat, un effectif loin de répondre aux besoins. Ils ne sont que deux par bloc de 80 à 100 détenus au lieu des quatre préconisés par un audit en 2018. Pour Steven Carnicelli, secrétaire général de la section pénitentiaire, les équipes sont installées dans un cercle vicieux.
Étant la plus grosse masse de personnel, en fait, on sert à combler les postes administratifs, les postes techniques qui ne sont pas couverts. Il y a certainement des vrais besoins, sauf que ce n'est pas à nous, personnel de surveillance, de combler. Ça fait des absences au niveau de la détention, des postes à couvrir, donc des rappels et de la fatigue supplémentaire.
Le SWINC dénonce également un manque d'écoute de la direction depuis 2 ans. Il demande donc le départ du directeur Philippe Perron. Le chef d'établissement, lui, pointe le contexte, crise sanitaire et actualité institutionnelle, cause d'une fatigue générale et d'un absentéisme chronique. Philippe Perron.
Le fond du problème, il est effectivement un absentéisme important et puis un sentiment de fatigue exacerbé. Plus vous avez un taux d'absentéisme qui monte, plus vous avez effectivement un nombre d'agents qui sont rappelés pour compenser. Et plus ils sont rappelés, plus ils se fatiguent là aussi.
Pour Vincent Holopopo, secrétaire général adjoint du SWINC Fonction publique, des démarches peuvent être engagées pour améliorer les choses.
Le SWINC a travaillé sur un service. Déjà là, le directeur, il traîne. Il fait l'organigramme de référence et l'organigramme de tous les services. Faire un travail de fond avec les syndicats, peut-être là, ça va commencer à alléger pour que les surveillants travaillent dans des bonnes conditions.
Pour la direction, le travail est engagé. Philippe Perron.
On a entamé un travail de fond avec eux sur le service des agents, sur le fonctionnement de l'établissement, sur les conditions de détention, sur les conditions de travail pour essayer d'améliorer les choses.
En attendant, le syndicat a rendez-vous le 3 février avec le directeur national de l'administration pénitentiaire à Paris pour lui exposer la situation.
En politique, alors que la question des règles de parrainage se pose en France, en Nouvelle-Calédonie, les comités de soutien se mobilisent en cas d'apport de signatures aux candidats. Il faut en effet 500 signatures pour que les candidats déclarés puissent participer à la présidentielle. Cédric Wakaouniem.
Le candidat Macron n'est pas officiellement déclaré, mais l'un de ses fervents soutiens calédoniens est prêt à le faire au moment voulu. Nicolas Meisdorf, maire de La Foy, n'a pas caché son intérêt d'apporter sa signature au président sortant pour plusieurs raisons.
C'est important de démontrer que les élus de proximité, on va dire, soutiennent un candidat en particulier pour le plus haut poste, on va dire, de la République française, parce qu'on considère qu'il répond au mieux aux attentes de terrain. Par exemple, en Nouvelle-Calédonie, c'est l'État qui finance à 40 voire à 50% les communes, qui permet les réalisations des routes, de l'éclairage public, des caniveaux, etc.
En Calédonie, apporter son soutien par une signature n'est pas nécessaire lorsqu'il s'agit de grands candidats qui rassemblent. Mais les comités de soutien veulent être prêts à tout moment et se mobilisent sur le terrain pour expliquer aux élus l'intérêt d'apporter son parrainage. Pascal Vittori, maire de Bouloupari, est l'un des responsables du comité de soutien de Valérie Pécresse.
C'est un travail de terrain, c'est un travail de présentation de la candidate dans un premier temps et dans un deuxième temps de présentation de son programme. Mais elle a aussi un programme spécifique pour la Nouvelle-Calédonie dans lequel elle s'est engagée à supprimer le gel du corps électoral. Elle s'est engagée également à rétablir une présence forte de la France en Nouvelle-Calédonie et dans la zone Indo-Pacifique.
Du côté du FLNKS, le Front indépendantiste ne s'est pour l'instant pas prononcé sur un possible parrainage de candidats pour ces présidentielles. En 2017, pourtant, un grand nombre d'élus indépendantistes avaient soutenu le candidat Oscar Temaroof. Par ailleurs, deux maires du Nord avaient notamment soutenu le candidat François Asselineau.
C'était Cédric Wakaouniem. Des nouvelles du temps pour suivre. 23 communes du territoire sont en vigilance jaune depuis 16 heures aujourd'hui. Des averses orageuses circuleront la nuit prochaine et demain matin sur les Loyautés, l'île des Pins et la pointe sud de la Grande Terre. Les fortes pluies s'étendront ensuite au relief et à la côte ouest demain après-midi. Météo France annonce que des débordements de criques et de rivières ne sont pas à exclure. Soyez donc prudents. On referme ce journal avec cette belle aventure. 20 jeunes font la traversée à cheval entre Wakaya, Awailou et Thiomission pendant 17 jours. Ils viennent de plusieurs communes et ont entre 13 et 17 ans. Ils sont accompagnés par le guide équestre Abel Uribeari et parcourent des sentiers empruntés autrefois par les anciens. Les jeunes cavaliers traverseront 7 communes avec des arrêts dans des tribus pour des activités, des échanges avec les habitants. Durant le parcours, des explications sont données par le guide équestre Abel Uribeari.
On fait des traversées, c'est des anciennes routes de nos vieux avant, des échanges qu'ils faisaient, c'est leur route, ce qu'on le refait encore maintenant nous, avec eux quoi. Il y a aussi la nature aussi, je parle beaucoup aussi de la nature, les forêts, surtout là où on passe aussi, ça, des endroits où ça n'a pas été touché encore. Voilà, c'est dans les temps de pause que je leur fais des petites explications. Et là, j'ai fait un trajet de 15 km de Newa jusqu'à Oua. Il y aura des parcours dans tout ce qu'on va faire là, ouais, ça sera un peu plus long. Le plus grand, je crois, c'est 21 km. C'est de 8 points jusqu'à Thio. Un parcours d'une journée, on fait des pauses de toute façon. On l'explique en même temps. Voilà, pourquoi le choix est comme ça, pourquoi, voilà, c'est tout ça là.
Abel Uribeari était au téléphone de Marguerite Poigoun. Le camp itinérant est organisé par l'association AIWA, l'association des animateurs et des intervenants de Wawilou, en partenariat avec les communes traversées. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je remercie Vincent Rigaud à la technique. Je vous laisse avec Ismaël. Excellente soirée à tous.